Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. C'est tous les jours de la semaine, tôt à la radio, dans les petits matins de France Culture, ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast de l'émission, disponible tous les deux sur l'application de Radio France. Vin Schluss est l'invité du réveil culturel aujourd'hui, à l'occasion de son exposition Interférence rétroactive, jusqu'au 31 octobre à la galerie Georges Philippe et Nathalie Valois, rue de Seine, dans le 6e arrondissement à Paris. On parlera d'art et de cinéma, car dans cette exposition, l'artiste présente des dessins, affiches, maquettes, décors de films, où il se projette dans les univers des films qui ont marqué son enfance et son adolescence. Bonjour Vin Schluss.
Bonjour.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Artiste, auteur de bande dessinée, réalisateur, Vincent Parono est votre vrai nom, Vin Schluss. Allez, faisons comme si c'était notre première interview. Pourquoi Vin Schluss ?
Alors, Vin Schluss, ça vient du fanzina, à l'époque. J'étais très jeune et on m'a baptisé comme... Enfin, ça venait de fan de musique post-industrielle. Bon, j'allais très vite, vraiment très vite. Et donc, il m'avait baptisé Anouar Vin Schluss. Et mes amis, pour se foutre de moi, on continue de m'appeler comme ça et c'est resté. Donc, je suis absolument pas responsable de ce... Non.
Vous êtes un auteur de bande dessinée, vous voulez de le préciser. Vous êtes arrivé par l'école du fanzina, fanzina de contre-culture graphique assumée. Vous publiez d'abord dans le fanzine Les Aventures de Miguel en 95, avant d'arriver à la revue Ferra et un peu plus tard Les Requins Marteaux. En 2008, votre album Pinocchio obtient le Fauve d'Or du meilleur album de bande dessinée au Festival d'Angoulême. Un an auparavant, c'était pour le cinéma, à Cannes, où Persepolis, que vous avez réalisé avec son auteur Marjane Satrapi, obtenait le prix du jury. Et en 2016, vous recevez la pépite d'or du salon du livre jeunesse de Montreuil pour Dans la forêt sombre et mystérieuse, un album de bande dessinée pour la jeunesse. Alors on ne pourra pas dire que vous n'avez rien fait de vos 50 premières années de votre vie, on peut mal le dire. Mais si je résume votre parcours en insistant sur les distinctions, c'est bien pour rappeler que vous passez très facilement du dessin à la bande dessinée, de la bande dessinée au film d'animation, et que cela, on le voit bien dans l'exposition « Interférence rétroactive ». Mais quand on est sur France Culture, peut-être que je vais expliquer ce que ça veut dire, interférence rétroactive. Parce que ça veut dire quelque chose. C'est un effet décrit par des psychologues depuis les années 30, dans le cadre d'ailleurs d'études expérimentales de la mémoire. Et l'idée générale est qu'un souvenir stocké en mémoire peut être perturbé par d'autres souvenirs.
Oui, c'est ça. J'aime bien cette idée de... Bon, enfin, moi aussi, j'avais lu quelque chose, enfin, quelques trucs sur le sujet. Et donc, mon travail, hein, de manière générale, est constitué d'influences que je truque ou que je bricole en permanence. Et j'aime bien cette idée de trafiquer ou de mentir avec les outils que j'ai. Donc voilà. Donc pour aller vite, je prends un film que j'ai aimé et j'en fabrique un autre. C'est ce que j'ai fait avec les affiches. J'ai pris des films que j'avais beaucoup aimés. Je fabrique un nouveau souvenir à base de trucs plus contemporains, bien sûr, tout en gardant l'aspect primitif et la joie primitive que j'avais eu à l'époque, quand j'étais enfant.
Enfant ou adolescent. D'ailleurs, voilà. L'enfance et l'adolescence sont au centre de votre travail artistique, ça revient souvent.
C'est... Oui, je pense que c'est peut-être proche de la névrose, mais c'est la solution que j'ai trouvée pour avancer. Comme je disais, j'ai besoin d'une joie primitive, et donc je suis pas du tout nostalgique, mais je vais piocher dans ces moments qui sont encore intacts de d'énergie. Et aussi de joie, comme je dis, enfin ce que j'ai pu ressentir, parce que ce que je décris est assez sombre.
Oui, parce que vous dites joie primitive, mais ce sont d'abord vos premiers traumatismes.
Oui, mais des traumatismes joyeux, quoi qu'il en soit, puisque même si, j'ai fait une affiche qui, enfin, une référence à Blue Velvet, c'est un film qui m'a traumatisé, sans aucun doute, mais j'ai aussi pris conscience de ce qu'était un auteur en même temps. Parce que j'allais voir des films, j'allais au cinéma comme un dilettante. J'allais voir n'importe quoi pour aller vite, tant que c'était violent. Et voilà. Et je tombe sur Blue Velvet, conseillé à l'époque par Mad Movies, qui était un excellent magazine. Et voilà. Sauf que je suis ressorti, j'étais plus le même. Parce que j'ai pas tout compris, évidemment. Mais j'ai juste vu un auteur ou un artiste au travail, avec tous les codes d'un film de genre, un thriller. Sauf que, bah voilà, c'était David Lynch. Donc je suis ressorti avec de la vase dans la tête.
David Lynch, des films qu'on a vus, des films aussi de genre, beaucoup de séries B. Mais il y a aussi dans votre exposition, interférences rétroactives, des films que soit on n'a pas vus, soit qui nous ont échappé, soit que vous avez complètement imaginé.
Oui, bah c'est voilà, d'où interférences rétroactives. J'ai fait une affiche avec Divine, donc le fameux drag queen.
Des films de John Waters,
oui. Oui, bon, qui était pour nous une icône punk avant d'être une icône, drag queen, parce qu'elle incarnait, il incarnait la liberté, l'anticonformisme. Voilà, donc nous, en tant que jeunes punks à l'époque, on regardait fasciné Divine. Donc j'ai voulu l'intégrer à une affiche que j'ai mixée avec une autre affiche assez connue des années 50. La femme de, je sais plus, 50 pieds, je pense. Et voilà. Sauf que c'est une drag queen géante qui est en train de détruire la ville. Bon, il y a une joie et une jouissance à faire ce genre de truc, à casser des jouets. Enfin, j'ai toujours aimé mettre le feu partout, donc c'est là dans la longue lignée de ce que je fais, ça résonne assez bien.
Interférences rétroactives, c'est donc jusqu'au 31 octobre à la galerie Georges Philippe et Nathalie Valois, une des galeries les plus accessibles, disons, de la rue de Seine, dans le 6e arrondissement à Paris. Qu'est-ce que ça représente pour un artiste comme vous qui est plutôt dans la bande dessinée ou qui est plutôt dans la contre-culture graphique ou même dans le cinéma d'animation, le moment galerie, exposition?
Pour être honnête, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que je travaille avec eux. Donc j'en suis à ma troisième expo, je pense. Et voilà. Après, Georges Philippe et Nathalie Valois sont venus me chercher. Je crois que c'était à la sortie de Pinocchio. Parce que conseillé par Gilles Barbier, ce qu'il faut préciser. Et voilà. Donc moi, j'ai pas de fascination particulière pour les galeries. Mais il n'empêche que il me donnait la possibilité déjà de me détacher de la bande dessinée, de faire des illustrations ou du volume, puisque c'était le deal de départ. Et voilà. Et après, comme ils font bien leur travail, c'est quand même des amoureux de l'art, mais pas juste l'art contemporain, l'art de manière générale, ils m'accompagnent sereinement et, comment dire, avec élégance.
Est-ce que vous travaillez spécialement pour les galeries ou est-ce que vous exposez dans des galeries des travaux que vous avez faits pour la bande dessinée, pour le cinéma?
Alors, dans les galeries, j'expose dans cette galerie, précisément. Et après, généralement, je conçois une exposition pour la galerie. Voilà. J'aime bien avoir un projet. Donc, généralement, il y a quand même à 80%, j'ai conçu toute l'exposition dans ce but-là, quoi.
C'est-à-dire en tenant compte de l'espace
et... De l'espace et puis du temps et de l'idée.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
Ah, little lad, you're staring at my finger. Would you like me to tell you the little story of right hand, left hand? A story of good and evil? H-A-T-E. It was with this left hand that old brother Cain struck the blow that laid his brother low. L-O-V-E. You see, these fingers, dear hearts, these fingers has veins that run straight to the soul of man. The right hand, friends, the hand of love. Now watch and I'll show you the story of life. These fingers, dear hearts, is always a warring and a tugging, one against the other.
Voilà un extrait du film La Nuit du Chasseur, un film qui vous a marqué, Winchlus, puisqu'il y a au moins deux dessins qui renvoient à ce film dans votre exposition Interférences rétroactives.
Sur La Nuit du Chasseur, je pense que j'en ai bien une centaine dans tout mon boulot, que ça soit au niveau des ambiances, de déco, de poésie ou de, enfin, il y a tellement de choses dans ce film qui est un de mes films préférés. Donc depuis 20 ans, je crois que je mets des références à ce film dans tous mes projets.
Et comment après, vous l'avez découvert ce film? Vous étiez enfant ou...
Alors je l'ai découvert au Ciné Club, Donc une émission qui paraît très lointaine maintenant, parce que j'avais pas le droit de regarder la télé après 9h. Donc je me levais en douce et je regardais...
Donc
le...
c'est jeune adolescent que vous découvrez ce
film. Ah mais enfant même.
Même enfant, ouais.
Oui, oui, oui. Et je regardais le ciné-club, donc il y avait souvent des films étrangers qui étaient sous-titrés, donc j'avais pas besoin de mettre le son pour pas réveiller mes parents. Et c'est là que je l'ai découvert. Donc sans le son. Et donc, ça, de toute façon, c'est un film impressionnant. Enfin, il est visuellement, il est déjà extrêmement fort, quoi. Donc voilà. Donc j'ai découvert avec le son plus tard, avec la voix de Robert Mitchum qu'on vient d'entendre. Mais voilà. Et ce film, j'aime pour plein de raisons. Son histoire aussi, puisque c'est un film donc qui est classé maintenant parmi les chefs-d'œuvre, mais qui à sa sortie a fait un bide monumental. Charlton, donc le réalisateur, a jamais pu refaire un film derrière. Et voilà, plus le fait que ce soit un thriller, que ce soit poétique, que ce soit violent, que ce soit tendre. Enfin, il y a à peu près tout dans ce film. Et d'atteindre une telle harmonie, c'est vraiment compliqué.
Alors, comment vous rendez compte de ce film à travers ces deux dessins, par exemple, qui représentent la fameuse scène de Robert Mitchum montrant ses tatouages, ses doigts, ses mains? Love, hate.
Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, tout est dit sur la personnalité du pasteur psychopathe. Mais en plus, il y a une culture du tatouage, love and hate dans la culture rock'n'roll. Enfin, c'était déjà présent, enfin à tout niveau. Et j'aime bien les idées simples. Et surtout, oui, je me suis souvent représenté en Robert Mitchum. Mais comme j'écrivais amour et haine, donc une lettre en plus, je me rajoutais un doigt. Donc dans toutes les j'ai fait donc cette affiche de la nuit du chasseur version française, donc il y a love and hate qui est devenu amour et haine et il y a un doigt en plus. Mais comme c'est assez réaliste, on s'en rend pas compte tout de suite. Et j'aime bien les trucs mutants comme ça et il y a une sorte de gêne mais qui est pas lisible.
Effectivement, six doigts. Et ça veut dire quelque chose au fait. Ce sixième doigt comme un sixième sens.
Oui, c'est j'ai fait aussi des pièces en volume avec amour écrit avec un sixième doigt. C'est pour moi l'amour est un sentiment aussi mutant et extrêmement trouble. C'est-à-dire que c'est tout et son contraire. Donc voilà. Donc pour moi l'aspect mutant, comme je dis, c'est que c'est quelque chose qui est présent mais qu'on ne voit pas tout de suite. Voilà. Donc je joue aussi sur cette ambiguïté quoi. Et puis il y a aussi un jeu stupide hein, de rajouter un doigt et que personne s'en rend compte.
Voilà. Comme les cinq différences. Et puis, cette manière de revisiter tous les contes de votre enfance, je suppose, après Pinocchio en bande dessinée, là on voit une pièce dans votre exposition qui renvoie la petite fille aux allumettes, c'est une manière aussi d'aller chercher vos premières frayeurs d'enfant et de les questionner.
Oui, et puis moi j'ai besoin d'un écran ou en tout cas de quelque chose pour faire pousser mes idées assez sombres, comme je disais. Et il est clair que moi, gamin, j'avais des vinyles, enfin des 45 tours, avec les histoires racontées de Barbe Bleue ou des voilà que j'écoutais. Enfin, pour ça me fascinait d'écouter ça avec mon tourne-disque et de remettre et de remettre et de remettre. Et après, le conte, il a une valeur, c'est que ça reste comme je travaille beaucoup sur la culture populaire. Ça me permet d'avoir une assise et de parler d'autre chose aussi. Ben, pour être clair, c'est ce que j'ai fait dans Pinocchio. Je voulais parler de la mondialisation. J'ai pris Pinocchio, le mythe de Pinocchio, parce que ça stabilise en fait l'attention du lecteur. Et après, ça me permet moi de raconter ce que j'ai envie de raconter.
A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night I saw this day.
Now it's dark.
One that found the ear?
One name that keeps coming up is this woman Singer.
Where are I?
The first thing I need is to get into her apartment.
I don't know if you're a detective or a pervert.
Do you like the way I feel?
Yeah.
see blue velvet through my tears.
It's a strange world, isn't it?
Voilà un film qui vous a beaucoup marqué, Vince Luce, et très présent dans votre exposition Interférences rétroactives, puisque vous reprenez carrément l'affiche de Blue Velvet.
Oui, là j'ai juste pris des éléments du film. Avec le travail de Lynch, de toute façon, il n'y a pas besoin de broder beaucoup. Et voilà, il y a des séquences, enfin des plans qui m'ont marqué, telle l'oreille au début du film qui est dans le gazon avec les petites les roses, la petite barrière blanche.
Et alors, comment vous vous projetez dans ce film? Parce que c'est ça l'idée de votre exposition, c'est comment vous, votre vie, va se projeter dans ces œuvres d'art, dans ces films.
Là, en l'occurrence, c'est plutôt David Lynch qui s'est projeté sur moi, quoi. Enfin, pour. Et donc, comme je dis, c'est peut-être la seule affiche de bon élève que j'ai fait, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on comprend des années après. Il y a des thèmes ou des choses qui reviennent dans mon boulot et en fait au fur et à mesure, certainement comme un vieux con, je me rends compte qu'il y a ce que j'appelle des névroses, mais en tout cas des choses qui reviennent de manière incessante. Et c'est pas exactement Blue Velvet, mais en tout cas il y a un truc une graine qui se place dans la cervelle et qui continue de se développer de manière incessante. Pinocchio, c'est le film que j'ai vu gamin, le premier film que j'ai vu au cinéma. On n'allait pas au cinéma dans ma famille, donc c'est un truc qui m'a ultra marqué.
Parce que grand écran,
j'étais effrayé. La baleine, c'est un film quand même très impressionnant. Enfin, le dessin animé de Walt Disney. Blue Velvet, il y a un truc, pareil, il y a la nuit du chasseur, j'en parlais tout à l'heure, mais Blue Velvet, il y a une ambiance qui me fascine parce que David Lynch a ce pouvoir d'installer quelque chose qui ressemblerait à un thriller. Mais il dévie en permanence et en fait, il arrive dans des sortes de méandres de manteaux ou dans une sorte de truc méta à la fin qui nous perd complètement. On ne sait plus ce qu'on était en train de regarder avec des personnages hallucinés et hallucinants. Et surtout, il a un culte de l'innocence qui est assez assez beau. C'est que les innocents peuvent être idiots, mais il n'y a jamais de condescendance. Les personnages naïfs sont hyper précieux dans les films de Lynch, alors qu'ils sont vraiment en contradiction avec des méchants dignes, enfin des vrais méchants.
Et vous revivez les mêmes réactions, émotions que vous avez eues quand vous avez vu pour la première fois, jeune adolescent, ce film aujourd'hui, par exemple, Lynch Luce, pour parler de Blue Velvet?
Je dirais que non. Et c'est ancré en moi de manière primitive, j'ai encore ce sentiment. Mais par contre, il y a un truc qui est certain, c'est qu'en tant que technicien, je regarde le travail d'un réalisateur et voilà, et il y a un autre plaisir, c'est de voir quelqu'un de voir un artiste ou un auteur qui fait bien son travail. Donc j'ai un regard technique aussi maintenant. On parlait de la nuit du chasseur, c'est pareil, je regarde les plans et je me dis comment c'est possible de faire des plans pareils. Blue Velvet, pour terminer, ce qui est drôle, c'est que donc il y a Isabella Rossellini et 20 ans après, je tourne avec elle, je fais Poulet aux prunes avec Marjane Satrapi. Donc je me retrouve avec Isabella Rossellini qui tournait dans le film. Je me dis au moins la vie a un intérêt, c'est que au niveau de l'ironie, c'est parfait, quoi.
Et c'est ce que vous développez comme idée dans cette exposition, à savoir que quand la fiction et la réalité semblent fusionner, vous avez même inventé un mot pour ça, c'est réaliction ou réaliction?
Réaliction, oui. Ouais. Oui, ben là oui, c'était. Je voulais faire mon poseur, j'imagine. Mais en tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que je développe. Mais je crois que c'était pendant le confinement. Je regarde le monde et comme je m'intéresse à l'histoire. Je me dis bon, on vient quand même d'une philosophie chrétienne ou judéo-chrétienne. L'Occident, les bases de l'Occident sont fabriquées sur cette pensée-là. Et je suis le fruit et je suis l'enfant de toute cette pensée, quoi qu'il en soit, même si j'essaie de m'en détacher. Mais la base même de cette pensée ou philosophie judéo-chrétienne, c'est quand même la fin est proche.
L'Apocalypse est là.
Et donc Jésus attendait la fin qui était c'est dans deux jours. C'est jamais arrivé, mais en même temps on a l'impression qu'on sait pertinemment ce qu'il faut pas faire et que voilà. Je disais, il y a les films par exemple qui annoncent une pandémie ou une catastrophe nucléaire et tout ça, mais on dirait plutôt que L'humain fait tout pour, c'est aussi proche de la prophétie autoréalisatrice. L'humain, on dirait que l'humain passe son temps à essayer de réaliser cette prophétie que la fin est proche, donc de tout détruire.
Ou peut-être de l'imaginer pour qu'elle n'advienne pas.
Alors moi, en ce moment, c'est pas ce que je vois. Hein.
C'est-à-dire ?
Bah, je vois plutôt une sorte de précipitation vers le chaos. On vit dans un système ultra-libéral qui est quand même, c'est un système qui crée juste, de la misère, de la violence. Enfin, je sais pas, au bout de 50 ans, on a compris quand même qu'il y avait un petit problème systémique. Mais quoi qu'il en soit, on continue d'avancer vers une sorte de destruction programmée et écrite, comme si c'était une volonté personnelle d'aller vers la fin, quoi. Donc voilà. Donc c'est ce qui me fascine, c'est ça, c'est cette ambiance du moment.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
L'exposition Interférences rétroactives de Winchlus est à visiter à la galerie Georges, Philippe et Nathalie Valois à Paris, dans le 6e arrondissement. C'est jusqu'au 31 octobre. Merci beaucoup Winchlus d'être passé ce matin.
Merci.
On se retrouve demain à la même heure. Bonne matinée sur France Culture.